Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de l'épisode publié la semaine dernière sur le sport et le sommeil que nous avions enregistré avec Marie, qui est kinésithérapeute et coach pilates. Donc je vous laisse tout de suite écouter la suite. Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère oui le plus souvent possible.
Toi, on parle un petit peu plus d'athlètes professionnels. Est-ce qu'il existe des recommandations spécifiques en ce qui concerne la gestion de leur sommeil, en lien avec leur entraînement intensif ?
Alors souvent, les athlètes pros, alors déjà j'ai envie de dire, un athlète pro a besoin d'avoir un bon sommeil pour être performant, c'est ce qu'on a vu, etc. Mais j'ai envie de dire que tout le monde aurait besoin d'avoir un bon sommeil pour être performant à leur façon, pour être en meilleure santé possible, etc. Donc de toute façon, il y a tous les conseils sommeil qui existent sont valables pour tout le monde et pour les athlètes pros pareil. Après souvent, les athlètes pros ont une charge d'entraînement, donc de fatigue, de bonne fatigue, entre guillemets, de fatigue physique très importante. Donc souvent, ils vont avoir besoin de sommeil, un peu plus de sommeil, un peu plus d'heures de sommeil. Et donc, soit ils peuvent allonger un peu leur nuit. Et donc, eux, ce n'est pas de 7-8 heures dont ils auront besoin, mais c'est peut-être plus de 9 heures, 20-10 heures. Et aussi, possibilité d'ajouter des siestes. Comme je disais tout à l'heure, les siestes, en fait, ça va permettre vraiment de redonner un petit coup de boost, alors ça c'est vrai pour tout le monde, mais d'autant plus pour les athlètes pros, pour optimiser l'entraînement.
Les siestes, tu conseilles un temps particulier, soit pour les gens qui travaillent ou justement pour ces athlètes pros?
Alors pour les gens classiques qui travaillent, souvent c'est conseillé une petite sieste de 20 minutes avant 14 heures. Voilà, c'est vraiment maximum 30 minutes, mais c'est plutôt 15-20 minutes, histoire de redonner un coup de boost, mais pas qu'il y ait trop de conséquences sur une diminution justement de la pression de sommeil qui pourrait avoir des conséquences sur l'endormissement le soir. Donc c'est ça, c'est trouver le juste milieu, une petite sieste, pas trop tard, pour aider à récupérer un peu. Ensuite, les athlètes professionnels, il y a eu des études qui ont montré que la durée de sieste idéale pour eux, ce serait 30 à 60 minutes. Et ensuite, quand ils se réveillent, il faudrait au moins une heure avant de faire leur entraînement pour être performant. Parce que c'est vrai que ça pose la question quand même, 30 à 60 minutes.
À 60, ça veut dire tu changes de rythme par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure.
C'est qu'en fait, en plus, tu arrives dans du sommeil profond. Donc, ça veut dire qu'ils arrivent dans une phase de sommeil profond qui est plus réparatrice. Sauf qu'au moment où ils se réveillent, ils risquent d'être un petit peu dans le gaz. Somnolents, parce qu'ils sont peut-être au milieu d'un cycle de sommeil profond. Et du coup, ça peut être un peu plus compliqué. C'est pour ça, je pense que dans les études, ils disent bien qu'il faut attendre une heure avant l'entraînement, parce qu'il y a une latence un petit peu avant d'être opérationnel.
Ok, ça c'est intéressant, je ne savais pas. C'est pareil pour revenir sur la sieste flash. Alors tu vas me dire si c'est vrai, parce qu'on ne sait pas tout. J'ai un patient qui me dit, alors moi je dors, même si je dors allongée, parce que t'en as qui me disent, moi en 20 minutes j'ai pas le temps de m'endormir, il faut que je sois allongée, assis, machin. Et j'ai un patient qui me dit toujours, moi je dors avec une télécommande ou quelque chose dans les mains, mes clés. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, quand je vais avoir un relâchement musculaire qui va commencer à s'opérer, je vais lâcher l'objet et c'est ça qui va me réveiller. Et c'est souvent ce temps qu'il faudrait pour être bien calibré sur une sieste rapide, finalement.
Oui, ça, c'est vraiment... Oui, effectivement, il décrit exactement ce qu'on appelle les siestes flash. Mais là, du coup, souvent, c'est un peu plus rapide. C'est encore un peu moins long que 15-20 minutes.
D'accord.
C'est vraiment... Oui. Mais oui, ça peut être une technique, effectivement.
Parfait. Quel conseil tu pourrais donner pour optimiser la récupération après l'exercice et donc améliorer cette qualité de sommeil? Donc, on va résumer un petit peu tout ce que tu as dit. On fait attention à l'intensité. On essaie de faire ça au moins une heure quand même avant le sommeil.
Ouais.
Est-ce que tu vois autre chose à préciser?
Il y a d'autres choses, par exemple l'hydratation. C'est aussi important de bien s'hydrater. à la fois suffisamment, mais pas trop pour pas se réveiller 15 fois dans la nuit, mais en même temps, il faut quand même s'hydrater suffisamment parce que la déshydratation, ça va aussi altérer la qualité du sommeil.
Alors, donc, en quoi ça va l'altérer? Parce que moi, je sais que mes patients vont me dire, bah, si je bois pas assez, je peux avoir des crampes, des choses comme ça. Est-ce que c'est ce phénomène justement de crampes qui va encore se reproduire ou c'est vraiment autre chose?
Ça peut être vraiment un phénomène de crampe, un inconfort de ressenti de bouche sèche ou de... enfin voilà, ça peut être voilà, des choses comme ça qui peuvent jouer vraiment. Okay. Et puis après, ensuite, il y a aussi l'alimentation. L'alimentation, à la fois, il faut manger suffisamment, mais pas trop.
Ça, on sait. On est plein à dire, oh là, j'ai trop mangé. Voilà. Et tu t'allonges dans ton lit, tu dis, ok, c'est bon, je transpire même.
C'est ça. Parce qu'en plus, quand on mange trop, ça augmente la thermogenèse. Enfin, et donc, en fait, on monte la température corporelle. Donc, non seulement on a du mal à digérer, mais du coup, c'est tout le corps qui se met en route pour essayer de digérer. Ça monte la température. C'est la cata pour son âme.
Eh oui, ça, c'est sûr. Donc, oui, il faut.
Donc, l'alimentation à la fois, il faut manger quand même suffisamment parce que si on a faim dans la nuit, ça va altérer la qualité du sommeil. Ouais. Mais il faut manger des choses qui se digèrent facilement, donc pas trop gras.
Ok.
Idéalement, voilà, pourquoi pas un plat de pâtes, hein. Enfin, ça peut
être efficace. Je sais qu'il y avait une discorde comme ça sur les crudités aussi, parce que des fois on pense que manger des légumes, c'est light finalement, mais est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui est moins bien, moins tu parlais de digestion? Il fallait que ce soit facile à digérer,
crudité, c'est pas le plus simple à digérer, donc ce sera pas forcément la première chose à plus recommander le soir. Il vaut mieux des légumes cuits.
Sauf que les gens, ils vont dire entre des pâtes et des légumes crus, ils vont dire c'est plus light, cru. C'est pour ça que je veux qu'on en parle.
C'est plus light en termes de calories. C'est plus light en termes de calories, mais c'est pas forcément plus facile à digérer.
Oui, c'est ça.
Donc après, tout dépend, c'est très individuel parce qu'il y a des gens qui ont du mal à digérer, il y en a qui n'ont pas du tout de mal. Donc après l'idéal ce serait un petit mix. Enfin, si vous avez du mal à digérer, évitez les crudités. Mm-hmm. Par contre légumes et pâtes, enfin féculents. Et par contre si vous n'avez pas de mal à digérer, vous faites comme vous voulez. Mais par contre c'est bien de mettre un petit peu de féculents quand même pour que ça tienne sur la nuit.
Ok. Très bien. Tu nous parlais justement tout à l'heure, on a compris qu'à 30 ans, ça y est, c'était foutu pour nous, à partir de 30 ans. Est-ce que il y a des effets du sport sur le sommeil? On a compris, mais en fonction, on va dire, plutôt de groupe d'âge. Là, on a parlé au-dessus de 30 ans, dessous de 30 ans. Si on est enfant, adolescent, femme, homme, si on est vraiment plus âgé, parce qu'on voit maintenant que la chance quand même, c'est que avant, les gens étaient actifs plus par leur métier, ils étaient moins sédentaires, mais pas forcément sportifs. Maintenant, on a un métier, on a des vies qui sont sédentaires, c'est le problème et le mal du siècle actuel. Mais on a cette chance maintenant que même les soixantenaires et au-delà continuent à avoir des activités physiques. Donc, on a parlé qu'on vieillissait à partir de 30 ans, mais voilà, est-ce que tu peux nous dire quelque chose de plus sur enfants, ados, femmes, hommes et personnes vraiment plus âgées?
Alors, enfants, ados, clairement, le sport va aider parce que ça va vraiment aider à avoir plus de, encore une fois, pression de sommeil, plus de bonne fatigue, une dépense d'énergie supplémentaire. Donc, les enfants, les ados qui ont toujours parfois beaucoup d'énergie, qui peuvent être bien bougés, ça va leur faire du bien de pouvoir faire une activité physique, de décharger l'énergie pour réussir à mieux dormir. Donc ça va être important pour qu'ils aient un meilleur sommeil, effectivement. Ensuite, à l'âge adulte, globalement, c'est un petit peu tout ce qu'on disait. Et vraiment, là où on peut insister, c'est effectivement la question de la sédentarité. Donc ça va permettre quand même de permettre une dépense énergétique qu'on n'a pas forcément au travail du fait de travail de bureau, etc. Et puis ça aide le sport, à l'âge adulte va aussi beaucoup aider à la gestion du stress. Ça va vraiment beaucoup aider à la décharge du stress, le mouvement de manière générale va aider à gérer le stress. Et du coup, un stress qui est mieux géré, on s'endort mieux, on a un sommeil qui est plus profond, plus réparateur, parce que c'est tout le système nerveux qui est un petit peu plus apaisé. Okay. Et donc ça, à l'âge adulte, Après, les différences hommes-femmes. Alors forcément, les femmes ont des variations hormonales. Donc les variations hormonales vont avoir des effets tout le temps. Enfin, plus ou moins marquée en fonction des personnes, mais clairement, les femmes ont des variations hormonales que les hommes n'ont pas. Donc, en fonction du cycle, il va pouvoir y avoir des moments où on va réussir à dormir plus facilement qu'à d'autres moments. Donc, c'est là que c'est important d'avoir repéré, et peut-être à certaines périodes de son cycle, de pouvoir être un peu plus attentif et du coup se dire... Et bien, à telle période, il faut que je fasse plus attention. Je fais une routine le soir pour m'apaiser un petit peu plus longue. Je mets certaines choses en place là où, à d'autres moments du cycle, ben, finalement, je vais m'endormir plus facilement en faisant un peu moins d'efforts.
Okay.
Et donc, ça peut être effectivement des choses auxquelles être attentif. Et puis après, pour les personnes plus âgées, on sait qu'avec l'âge, de façon naturelle, on va moins sécréter de la mélatonine. Donc, du coup, le rythme circadien est moins entraîné par la mélatonine. Donc, ça va être d'autant plus important de pouvoir faire du sport le matin, par exemple, pour vraiment donner l'indicateur au corps qu'on est le matin. De pouvoir bien faire des activités plus douces le soir pour vraiment apaiser. Enfin, vraiment, du coup, utiliser des synchronisateurs externes plus importants, étant donné que la mélatonine en elle-même va être un petit peu moins efficace.
Ok. Donc, si je comprends bien un petit peu avec tout ce qu'on vient de voir ce soir, là, sur cette grosse demi-heure, toutes les deux, finalement, faire du sport va forcément améliorer le sommeil. Moi, je vais te rejoindre là-dessus en disant que non seulement ça améliore le sommeil, on a parlé de la sédentarité, évidemment, on a parlé des étirements, des mouvements, de la mobilité, des articulations.
Oui.
Finalement, bien dormir, bien bouger, ça va être le nerf de la guerre. Mmh. Maintenant, sur des personnes qui ont des pathologies liées au sommeil, par exemple, on a parlé d'insomnie, mais j'irais même sur des pathologies plus poussées que ça, des gens qui dormiraient, par exemple, tout le temps, type narcolepsie, des choses comme ça, qui, eux, n'ont pas forcément de phase de sommeil.
Oui,
ils n'ont pas de sommeil réparateur.
Oui, en fait, c'est... alors, ça, c'est quand même particulier, mais quoi qu'il en soit, l'activité physique fera toujours du bien. Après, ça n'aura pas un impact dingue sur des choses type narcolepsie. Après, là où effectivement, on n'en a pas parlé, mais où ça, il y a vraiment une amélioration, c'est sur l'apnée du sommeil. Les gens qui présentent...
Les gens parler de l'apnée et de la grossesse après. L'apnée du sommeil.
L'apnée du sommeil, en fait, le sport permet plusieurs choses. Ça permet en fait vraiment de réduire les apnées, mais pour deux raisons différentes. À la fois, il y a une perte de poids, ça favorise une perte de poids, donc du coup, ça diminue la graisse au niveau du cou, etc. Donc, ça va favoriser la respiration la nuit.
Abdominale aussi.
Toute la graisse abdominale, etc. Et après, même indépendamment de la perte de poids, il y a des études qui ont montré que l'activité physique, en fait, améliorait l'apnée du sommeil, probablement parce qu'il y a une meilleure tonicité des voies respiratoires, des muscles du cou, de la gorge, des muscles... thoracique, etc. Et donc, avec cette meilleure tonicité globale, même sans perte de poids, ça permet d'avoir moins d'apnée du sommeil.
D'accord. Parce que je pensais que tu allais me dire, ça augmente la capacité respiratoire, donc, mais non, même pas.
Okay, mais c'est la tonicité musculaire.
Ok. Ouais. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et donc, chez notre petite femme enceinte, du coup, est-ce que, parce que c'est pareil, au fur et à mesure où on avance, même si nous, les kinés et autres professionnels, on essaie de faire en sorte de diminuer leurs maux. On sait qu'il y a de moins en moins... Alors, on est d'accord qu'il faut consulter un professionnel de santé, avoir l'accord de son gynéco, son médecin et autres, on va quand même le redire. Mais on se rend compte, même au fur et à mesure des années, là, que finalement, il n'y a plus beaucoup de contre-indications au sport, même au sein du troisième trimestre. Je voulais que tu me confirmes ça.
Oui.
Et que du coup,
ça permet...
Voilà, parce qu'on parlait... La course à pied, par exemple,
Maintenant, après, ça dépend si vous avez eu l'habitude de courir, parce qu'il ne faut pas se mettre à la course à pied enceinte. Mais si vous avez eu l'habitude de courir, après, c'est vraiment aux sensations. A priori, on peut aller très loin, c'est aux sensations. Il faut faire quand même attention au périnée, parce que les impacts, ça peut quand même peser sur le périnée. Mais a priori, moi, je ne suis pas non plus spécialiste sport et grossesse, mais a priori, on peut aller quand même très loin. Et quoi qu'il en soit, après, on peut de toute façon marcher jusqu'au bout. Même marcher 15 km, hein, il n'y a pas de souci. Enfin, marcher jusqu'au bout, il n'y a pas d'impact. Donc, à partir du moment où ça va, vous pouvez même marcher dans les escaliers. À partir du moment où votre fréquence cardiaque ne monte pas au-dessus de 150, enfin, voilà, il y a quelques règles à respecter. Mais en tout cas, faire du sport pendant la grossesse, c'est plutôt indiqué parce qu'en plus, effectivement, ça va quand même favoriser une bonne fatigue. Donc, ça va aider le sommeil qui peut parfois être perturbé.
C'est ça.
Dans la grossesse, du fait de
l'inconfort, je ne sais plus comment se mettre.
Voilà.
Exactement. Et pour le bébé, ça a un impact, j'imagine, aussi.
Bah après, plus la maman est en bonne santé, plus c'est bénéfique pour le bébé aussi, puisqu'en plus, une maman qui fait du sport, qui va bien dormir, aussi, alors, elle va être moins stressée, elle va mieux gérer aussi, peut-être, mieux gérer aussi l'accouchement, parce que quand on est en meilleure santé, plus tonique, bah, on supporte mieux une fatigue, on a plus d'endurance, donc la fatigue de l'accouchement, même après, quand on doit s'occuper du bébé, on va réussir à mieux gérer. Et puis en plus, le fait de faire du sport, on sait que pour l'humeur, c'est une bonne chose. Donc si c'est bon pour l'humeur et en plus ça améliore le sommeil, le fait d'améliorer le sommeil est bon aussi pour l'humeur, bah, du coup, en fait, ça va être, on va être mieux géré, on va se sentir mieux, on va mieux gérer, donc c'est tout bénéf. Et puis le fait aussi de faire du sport pendant la grossesse, on est plus tonique et ça diminue aussi les douleurs lombaires.
Ah, je te confirme.
Donc on dort mieux, donc on est mieux. Enfin voilà, tout se rejoint. Enfin,
c'est
voilà.
Et c'est là où le pilate est bien, petit.
Ah bah oui, oui. Mais voilà, c'est ça.
C'est comme ça que j'ai découvert le pilate et c'est là que je me suis dit, il faut absolument que je reproduise ça au cabinet avec mes patients. Et si ça marche sur les femmes enceintes, problème de dos, ça doit marcher sur les lombalgiques. Ouais. Donc on fonce et effectivement. Ben oui. Quand on a moins mal, on dort mieux. Et c'est vrai que ça change,
oui.
Ça change la vie. Hein. Parce que même sur le comportement, hein, quand on ne dort pas bien, on est à cran et on a envie de bouffer tout ce qui passe. Et dans tous les sens d'ailleurs. Et on a envie de manger parce qu'on n'est pas bien. On comble ce manque de sommeil qu'on n'a pas eu. Et on est désagréable avec les gens qui nous entourent. Bah écoute, super Yasmine, merci pour toutes ces réponses à toutes nos questions. Il y avait eu un petit peu plus de questions sur la grossesse, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard parce qu'on va pas te garder toute la soirée. Ça fait 40 minutes qu'on discute tous ensemble. Je vais laisser la parole s'il y a des questions, bien évidemment, à la communauté. Donc on va regarder quand même les questions, les gens sur ce qu'on a dit ou justement sur ce qu'on n'a pas dit, parce que sur ce qu'on a dit, peut-être si on a manqué si on n'a pas été assez clair, n'hésitez pas à revenir. Est-ce qu'on a des questions ou pas sur ce sommeil? Profitez-en. Le sport adapté au sommeil notamment. Donc après, si on n'a pas, on ne va pas te retenir très longtemps, mais en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions.
Mais c'était un plaisir.
On avait eu cette semaine,
surtout le thème du sommeil et du sport.
Et oui, j'adore. Ça te correspondait pas mal.
Voilà.
Et donc, le temps que ça éventuellement pose des questions, tu conseilles de consulter quand finalement quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un.
Dès que vous avez un doute, en fait, parlez-en déjà à votre médecin traitant qui peut vous donner quelques conseils. Surtout, prenez-le en compte parce qu'il y a tout de suite en fait des choses à faire, des petites habitudes à changer, des petites choses auxquelles être attentif, des techniques à ajouter dans votre quotidien. Il y a plein de choses à faire et il faut pas. C'est dommage quand il y a des gens qui arrivent, ça fait 5 ans qu'ils dorment mal, etc. Alors que parfois, des petits ajustements en un ou deux mois. Ben hop, c'est reparti, alors que ça fait des années qu'ils dorment mal. Donc, ce n'est pas une fatalité. Il faut vraiment, il y a des choses à mettre en place. Ça paraît tout bête. Parfois, ce n'est pas si simple à. Enfin, voilà, on ne prend pas la décision de vraiment faire. Donc, ça vaut le coup.
Après, j'ai l'impression que ça se démocratise un petit peu là depuis quelques mois, années, sans parler de mode, hein, parce que je ne voudrais pas dire ça, mais j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus maintenant. Qu'il y a ça même encore 5 ou 10 ans. Et pour même moi-même, par exemple, avoir consulté, je sais que je ne le faisais pas parce que fallait aller à l'hôpital une nuit pour qu'on nous pose les. Alors, bon, après, quand tu es vraiment au bout de ta vie, on est d'accord que tu le fais. Hein,
oui,
chacun, tu vois tes priorités. Mais j'ai
encore. Les enregistrements de sommeil, ce n'est pas indiqué dans l'insomnie.
Oui, effectivement.
C'est l'insomnie, il n'y a pas d'examen complémentaire. C'est vraiment un questionnaire, de l'anamnèse. Et après, c'est de l'échange pour trouver les choses à modifier. Mais c'est pour d'autres pathologies qu'il y a besoin de faire des enregistrements. Il y a différents types d'enregistrements, notamment après pour dépister l'apnée du sommeil ou alors autre chose.
Mais, ça peut être quoi les autres choses pour que les gens soient au courant, tout ce qui va être bruxisme, jambes sans repos?
Oui, jambes sans repos, ça il faut qu'il y ait effectivement un enregistrement pour détecter. Ça peut être, après souvent c'est plus dans, quand il y a des comportements paradoxaux la nuit, ou des troubles de comportement, par exemple, la nuit, pour détecter des choses comme ça. Ou,
ok.
Voilà. Mais l'insomnie, normalement, l'insomnie classique, il n'y a pas d'examen particulier à faire.
Donc déjà, l'insomnie, mettre une routine en place, ouais. Bien s'hydrater, limiter le sport, on va dire, une petite heure avant d'aller au sommeil. Mm-hmm. J'imagine que même si ce n'est pas du sport, tout ce qui va être écran...
Il vaut mieux limiter. Alors après, il y a la question de l'écran, vraiment de la lumière bleue, mais il y a aussi la question de l'écran, de la stimulation cognitive que ça crée, notamment les réseaux sociaux qui stimulent, d'échanger des messages, ça stimule je ne sais pas, on a fait son entraînement, on le met sur Strava ou je ne sais quoi, et du coup, on regarde et ça stimule. Donc tout ça, voilà, c'est des choses qu'il va falloir essayer de
couper.
Ouais, voilà.
Je pense que c'est un peu... problème de tout le monde maintenant. On a le téléphone en guise de prolongement de notre main. Et je pense qu'il ne faut pas regarder des fois combien de temps on reste par jour sur nos téléphones, parce que c'est assez affolant. Ouais. Et des fois, ça, je dis à mes patients en rigolant, parce que moi-même, j'y passe du temps en étant sur Instagram comme ça. Mais je dis, vous savez, s'ils regardent le temps, ce qu'ils me disent, mais j'ai pas eu le temps de faire mes exercices, ou j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas le temps de faire ci ou ça, ou de bouger ou d'aller au sport. Je voulais qu'on regarde le nombre de temps là que vous avez passé. Alors, certes, il y en a, c'est pour leur boulot, etc. Oui. Tout le temps d'un écran n'est pas fait pour ça. Mais je pense que, comme tu disais, des petites routines qui n'ont pas besoin d'être longues, de 15-20 minutes, peuvent être faciles à mettre en place. Et des fois, sans se rendre compte, travailler la mobilité, des petits étirements, comme tu disais, même sur le travail, sur leur lieu de travail, sur leur chaise de bureau.
Mais c'est pour ça d'ailleurs que moi là j'ai sorti là tout récemment un programme d'accompagnement au sommeil, et c'est justement gestion stress et sommeil, parce qu'il fallait faire des choix, parce que le sommeil c'est tellement complexe, et j'avais envie de proposer un petit programme qui soit pas trop énorme, trop compliqué, quelque chose vraiment d'accessible. Et du coup effectivement j'ai choisi cet angle stress et sommeil, où justement je propose déjà une explication du lien entre le stress et le sommeil.
D'accord.
Et justement au quotidien, en fait, des petites choses au quotidien à
et
faire.
C'est quoi, c'est quoi que tu
oui, il y a 30 vidéos.
OK.
30 vidéos qui durent 5-10 minutes, voire maximum 15 minutes.
Ouais.
Qui donnent à la fois, on fait un point au départ, un bilan un peu complet avec des questionnaires pour faire un état des lieux. Ensuite, il y a des informations pour comprendre le sommeil, comprendre le lien entre le sommeil et le stress, comprendre. Okay. La gestion des émotions aussi, pourquoi la régulation émotionnelle pour gérer un petit peu son quotidien. Ensuite, j'évoque un peu différents types de techniques dont on peut parler, qui peuvent aider à gérer le stress, à aider à préparer le sommeil, etc.
Ouais.
Et puis après, c'est vraiment accompagner à la mise en place dans le quotidien, le soir, comment gérer aussi les réveils nocturnes la nuit.
Okay.
Et voilà, donc c'est tout un petit un processus comme ça.
Je remercie beaucoup au sein de la communauté d'avoir répondu, d'avoir pris le temps pour répondre à tout ça. J'espère qu'on pourra rééchanger très prochainement pour parler peut-être justement de nos grossesses et de nos femmes enceintes. Et puis voilà, en tout cas, on vous fait tous des gros bisous. N'hésitez pas à commenter ce live si vous avez des questions. On y répondra bien sûr sur les prochains jours. Voilà, on vous fait
prenez le temps de vous détendre pour passer une bonne nuit.
Tout ça. Et dormez bien.
Et oui, dormez bien.
Allez, bye.
Bye.
Salut.
Merci d'avoir écouté cette deuxième partie jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé plein d'infos intéressantes. Et je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Et puis pensez-y, de petits gestes aujourd'hui pour de grands sourires demain.